Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza. Aujourd'hui, nous avons Rumiana au téléphone. Elle nous appelle de Sicile. Voilà, donc c'est une participante de la délégation belge. Et après, on va écouter Michel Staszewski qui va nous parler des mythes du sionisme. Voilà. Voilà, c'est parti. Bonjour Rumiana, tu vas bien?
Oui, oui, en plein préparatif, oui.
Ouais, donc maintenant tu es en Sicile.
Oui, je suis en Sicile, à Augusta.
Oui.
Et puis voilà, donc on est en train de faire les formations assez intenses, y compris simulation d'interception, détention et tout ça. Et puis on prépare les bateaux, on charge les provisions et l'aide humanitaire.
Ok. Et donc, Augusta, c'est pas très connu, en fait, en Sicile, mais c'est un port militaire, non?
Oui, c'est un port militaire, justement. Mais bon, on a commencé d'abord en Sicile, et maintenant les bateaux sont à Augusta, de l'autre côté du port militaire, c'est une péninsule. Et oui, c'est assez impressionnant parce que malgré tout, et probablement aussi à cause du fait que déjà la population est très consciente de l'existence de ce port militaire et de cette présence, ils sont très prêts à nous soutenir. Donc ils nous ont... En fait, c'est la ville d'Augusta qui a offert le port, la marine, qui en fait est en train d'être construite, qui est à l'opposé de la presqu'île du port militaire.
Ok. Ok, ok. Et je pense que toute la délégation belge, ou presque, doit être là, sur place, hein, maintenant.
Oui, depuis hier soir, on est tous là. Harold est arrivé en dernier et ceux qui sont partis de Barcelone sont arrivés aussi hier dans la journée.
Ok. Et comment est l'accueil chez les gens là-bas?
Ben, écoute, moi je suis quand même très impressionnée parce qu'en fait, on est allé dans trois villes. On était à Syracuse, à Catane et maintenant à Augusta. Et en fait, dans chaque ville, les organisations locales et les syndicats ont organisé des événements, des manifestations pour le soutien, mais avec vraiment la Palestine étant bien vue non seulement comme un compas moral, mais comme une lutte commune pour l'humanisme et un futur juste et équitable. Hier à Augusta, c'est très émouvant. Chaque année, il y a des associations qui font une commémoration du mémorial au plus grand naufrage en Méditerranée, où il y a un bateau de 1000 migrants qui a coulé.
Oui.
Et donc les associations ont partagé ce moment avec la flottille, et notant bien que les mêmes causes fondamentales qui résultent dans ce genre de tragédie sont les mêmes, on est tous dans la même lutte, et ce qui était encore plus inspirant, c'est qu'il disait oui, c'est une tragédie, mais et on tient à commémorer chaque année, mais ce n'est pas, pas parce que c'est triste, on veut, mais c'est parce que justement on veut montrer que la résistance locale et aussi internationale comme la Clotie, c'est notre devoir et qu'il faut continuer à le cultiver si on veut un meilleur avenir en général, quoi.
Et toi, comment tu te sens? Tu es prête? Tu as envie de partir?
Oui, parce que là, je me prépare quand même mentalement depuis que je me suis impliquée avec la délégation belge, et puis depuis deux semaines, depuis que j'ai été sélectionnée, donc mentalement et même physiquement, oui, je suis tout à fait.
Ok. Est-ce que tu as un message pour nos écouteurs en Belgique?
Le message serait de nouveau de réitérer que voilà, que nous sommes là, voilà, nous sommes des civils, nous sommes là c'est une lutte qui est commune. Hein. Moi, je suis de la génération post-guerre qui a grandi avec le plus jamais les massacres, les nettoyages ethniques. Et avec la conviction que le du droit au peuple de l'autodétermination et les luttes contre le colonialisme. Et là, on est replongé dans l'apartheid, les guerres impérialistes et les génocides en direct. Donc, et ça nous impacte tout. J'entends souvent les gouvernements et divers parlant de oui, comment on va faire pour adresser les prix montants de l'énergie, eh bien, c'est pas avec des petits sous qu'on envoie par-ci, par-là aux gens, c'est en résistant justement les causes fondamentales. Parce qu'aucune guerre, les intérêts ne sont contraires aux intérêts, ça demande de l'argent public, et au lieu d'investir dans l'éducation, la santé, donc il faut, si j'ai un message, c'est oui, penser aux causes fondamentales et protester contre les causes fondamentales et pas le résultat.
Ouais. Romiane, merci beaucoup. On va certainement encore parler une fois que vous êtes sur le bateau. Et c'est quand que vous partez, en fait? Vous le savez déjà?
J'ai un doute, mais je crois que ce sera le 26.
Le 26?
Demain ou après-demain.
Ouais.
Ce soir, il y a une assemblée générale.
Ouais.
Donc, il va y avoir une discussion sur la stratégie en général. Et puis, il y a des préparations sur les bateaux aussi, parce que il y en a plusieurs qui sont partis de Barcelone qui ont eu des problèmes techniques. Donc, certaines réorganisations qui va dans quel bateau. Et donc, il y a toutes ces considérations. Mais bon, d'ici un jour ou deux, je crois qu'on sera en mer pour tenir la lutte. Des peuples palestiniens et essayer d'arrêter ce génocide qui se perpétue maintenant aussi au Liban.
Oui, tout à fait. Ok. Rumiana, merci beaucoup et bon vent et à très bientôt.
Merci à toi. Au revoir.
Au revoir. Ciao, ciao. Yeah.
Bonjour, Michel Stachewski.
Bonjour.
Votre livre est intitulé « Palestiniens et Israéliens, dire l'histoire, déconstruire mythes et préjugés et entrevoir demain ». Je propose qu'on parle un peu de déconstruire mythes et préjugés. Quels sont les mythes que vous essayez de déconstruire et quels préjugés ?
Bon, alors je vais vous parler de trois mythes qui me semblent peut-être les plus forts. Donc ce sont des mythes qui justifient le projet sioniste, le projet de créer un État juif en Palestine. Alors, il y a un mythe qui a vraiment la peau dure, qui est le mythe du retour. Donc l'idée que les Juifs retournent en Palestine après 2000 ans d'exil. C'est purement mythique. Il n'y a pas eu d'exil des Juifs. Il y a peut-être eu quelques dirigeants à un moment donné qui ont été exilés, mais la grande majorité des Juifs de Palestine sont restés là-bas. Alors comment se fait-il qu'il y a beaucoup de Juifs ailleurs ? Ben, en fait, c'est lié à des conversions. C'est-à-dire que la religion juive, qui maintenant n'est plus une religion prosélyte comme l'islam ou comme le christianisme, qui sont des religions à vocation universelle, en fait, le judaïsme a été une religion prosélyte dans l'Antiquité. Et ça a marché. Le judaïsme était en concurrence avec le christianisme, il était aussi en concurrence avec d'autres religions. Et ça a marché dans pas mal de cas. Donc il y a eu des conversions individuelles, bien en dehors de la Palestine. Et il y a aussi eu des conversions de dirigeants, de monarques. Par exemple, il y a eu un royaume qui dans l'actuelle Turquie qui s'appelait le royaume d'Adiabène. Je crois que c'est le 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a eu le grand royaume khazar au 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, où le roi s'est converti. Le royaume khazar, c'est plus que le territoire de l'Ukraine actuelle. C'est une partie de la Russie du Sud et même jusqu'au Caucase. Il y a eu au Yémen aussi. Il y a eu des conversions en Éthiopie. Il y a eu une reine berbère au Maroc, donc au Maghreb. Et tout ça explique l'existence de communautés juives importantes. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'au moment où les sionistes arrivent en Palestine, fin 19e siècle, pourquoi est-ce qu'il y a peu de juifs en Palestine ? Ben, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a eu des conversions, c'est-à-dire des conversions au christianisme et puis des conversions à l'islam. Et que donc, on peut penser que beaucoup de Palestiniens d'aujourd'hui sont les descendants des juifs d'il y a 2000 ans, mais qui se sont convertis d'abord au christianisme et puis à l'islam. Et une petite minorité sont restés juifs. Puis il y a d'autres juifs qui sont arrivés au fil des siècles en petit nombre, mais pas avec le projet de créer un État juif, hein, avec le projet de s'installer près des lieux saints, quoi. Voilà. C'est des juifs religieux. Voilà. Donc c'était un mythe. Et donc quand les sionistes justifient ou disent qu'ils ont le droit de créer un État juif parce que c'est simplement le retour, c'est complètement mythique. Ben, admettons même que ce soit vrai, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi ils auraient plus le droit de retourner là-bas que d'autres qui ont aussi... Enfin, voilà. Mais de toute façon, c'est un mythe. Un autre mythe, c'est la civilisation judéo-chrétienne. Alors ça, c'est un truc qu'on nous ressort tout le temps. Il y a d'ailleurs un livre que je recommande qui est sorti récemment, après le mien, qui a été écrit par Sophie Bessis, qui est une juive d'origine tunisienne. Et qui a écrit un livre là-dessus, sur le mythe de la civilisation judéo-chrétienne. J'ai oublié le titre exact du livre, mais c'est ça. C'est un livre qui est sorti cette année. Très intéressant, un petit livre, et qui démonte ce mythe de la civilisation judéo-chrétienne. Il n'y a jamais eu de civilisation judéo-chrétienne. Il y a eu, au moment de la naissance du christianisme, on a parlé de judéo-christianisme, parce que ce sont des juifs qui ont créé le christianisme. Donc il y avait effectivement quelque chose de commun, et il y a un passé commun, etc., au niveau religieux. Mais quand on parle de civilisation judéo-chrétienne, en fait, à notre époque, on instrumentalise ça pour en faire une espèce de bloc judéo-chrétien contre l'islam. Et même dans le monde musulman, il y a de la part d'une certaine partie de l'opinion publique, il y a une intériorisation de ça. un certain nombre de musulmans se voient contre le monde judéo-chrétien, comme si c'était un monde unifié. Ça n'a pas de sens historiquement, parce que dans le monde chrétien, les juifs ont beaucoup été persécutés, surtout depuis le temps des croisades, c'est-à-dire depuis le XIe siècle. Et donc, il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne, il y a une civilisation chrétienne qui dominait une petite minorité juive, qui n'était pas du tout une civilisation commune, quoi. Voilà. D'ailleurs, en passant, les juifs ont beaucoup plus été persécutés dans le monde chrétien que dans le monde musulman. Il y a aussi eu des persécutions, il y a aussi eu des discriminations, mais beaucoup moins fortes sur le long terme. Voilà. Donc voilà un autre mythe. Et alors, un troisième mythe dont j'aimerais bien parler, c'est le mythe de Israël État refuge. Parce que les fondateurs du sionisme ont dit, nous avons besoin, vu les persécutions que nous avons subies, avec aussi le mythe du fait que les juifs auraient été persécutés tout le temps et partout, ce qui est aussi mythique. Il y a eu beaucoup de persécutions des juifs, comme de toutes les minorités religieuses du temps où la démocratie n'existait pas, et la tolérance religieuse n'existait pas. Il y a eu des persécutions, mais pas tout le temps, pas partout. C'est pas quelque chose d'intangible. Parce que le sionisme est une idéologie extrêmement pessimiste qui considère qu'on ne peut pas réussir à vaincre l'antisémitisme, donc la haine des juifs, et que la seule solution, c'est de vivre à part dans un État fort. Et c'est ça, la création de l'État d'Israël, c'est cette idée d'État refuge soutenu par une grande puissance. Alors, ça a été longtemps le Royaume-Uni, maintenant c'est surtout les États-Unis et l'Union européenne dans une certaine mesure. Et donc, Israël serait l'État refuge des Juifs. Et il y a beaucoup de Juifs qui, en toute bonne foi, sont contents qu'Israël existe en tant qu'État juif, parce qu'ils se disent, si jamais des persécutions reprennent, comme l'épouvantable génocide des Juifs par les nazis au milieu du XXe siècle, au moins on aura un endroit pour se réfugier. Mais moi je dis que cet État-refuge, c'est un mythe, parce que quel est l'endroit du monde où les Juifs meurent le plus de morts violentes? C'est en Israël. Et pourquoi c'est en Israël? Mais parce que les Palestiniens sont persécutés et résistent, et une partie d'entre eux résiste de manière violente. Voilà. Et donc jamais l'État d'Israël n'a été un refuge pour les Juifs. Au contraire, c'est là qu'ils meurent le plus, de morts violentes. Moi, je suis juif, je me sens beaucoup plus en sécurité en Belgique que je serais en Israël. Bon, en plus, je suis un opposant, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est le mythe de l'État-refuge. Et donc, pour moi, Israël pourrait être un État-refuge pour les Juifs, à condition que ce ne soit plus un État juif. C'est-à-dire que ce soit un État où les gens vivent en paix entre eux, là-bas. Et alors, on peut très bien imaginer que des Juifs qui seraient persécutés dans le monde, en vertu des lois internationales sur la protection des personnes persécutées, seraient bien accueillis, surtout dans la mesure où une des deux grandes communautés nationales, ce sont des Juifs, justement. Donc, il y a des chances qu'ils soient bien accueillis, quoi. Voilà. Mais, et pas sous la menace des Arabes du coin qui pourraient leur en vouloir. Parce que ça, c'est encore un autre mythe. Hein. Le mythe que les Arabes et les Juifs seraient des frères ennemis, entre guillemets, depuis tout le temps. C'est faux aussi. C'est encore un mythe. Il y a eu des moments dans l'histoire où il y a eu une très bonne entente entre tous. On connaît le cas du Maroc, où il y avait une grande communauté juive et où ça se passait plutôt bien, quoi. Voilà. Bon. Alors, vous m'avez aussi demandé les préjugés concernant les Juifs. Parce que je pense aussi que ça fait obstacle à une bonne compréhension de ce qui se passe. Je vais juste en parler d'un. C'est la confusion entre Juifs, Israéliens et Sionistes. Le mouvement sioniste a longtemps été très minoritaire parmi les Juifs. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il est vraiment minoritaire. Il est quasi absent en dehors de l'Europe et des États-Unis. Et il est minoritaire en Europe et aux États-Unis. C'est le traumatisme de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc du génocide des Juifs par les nazis, qui a fait que le sionisme est devenu une idéologie majoritaire chez les Juifs après la Deuxième Guerre mondiale. Majoritaire, mais pas celle de tous les Juifs. Il y a toujours eu des opposants. Il faut savoir qu'avant la guerre, bon, il y avait parmi les opposants, il y avait les juifs religieux. La grande majorité des juifs religieux étaient contre le sionisme, disant que c'était blasphématoire vis-à-vis de la volonté divine, parce qu'il fallait que le Messie soit revenu pour que le rassemblement des juifs en Palestine puisse être envisagé. Pas la création d'un État, mais un rassemblement auprès des lieux saints. Quoi. Voilà. Il y avait l'opposition des juifs libéraux, qui étaient pour l'assimilation dans les différents pays, avec juste la revendication d'avoir le droit à leur propre religion. C'est tout. Il y avait aussi l'opposition de toute la gauche juive, c'est-à-dire les socialistes, les anarchistes, les communistes, les trotskistes, enfin, tous ces courants-là étaient anti-sionistes, quoi. Et c'était des courants pas négligeables à l'époque. Voilà. Et donc, après la guerre, à cause du traumatisme, une majorité des juifs ont adhéré au sionisme. C'est devenu tellement massif que des gens ont commencé à faire la confusion entre juifs et sionistes, entre juifs et israéliens. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais à l'école, c'était le dernier jour de l'année scolaire, le 30 juin. Et il y a un collègue qui pourtant connaît mes opinions critiques vis-à-vis de l'État d'Israël, qui me pose la question comme ça. Il me dit « Tu retournes dans ton pays cet été ?» Alors je le regarde et je lui dis « C'est quoi mon pays à ton avis ?» À ce moment-là, il se rend déjà compte qu'il a dit une bêtise. Parce qu'évidemment, pour lui, je suis juif, donc mon pays c'est Israël. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les juifs ont une double nationalité, qu'on a automatiquement la nationalité israélienne. Ce n'est pas vrai, il faut la demander pour l'avoir. Voilà. Et il faut prouver qu'on est juif selon les lois religieuses. Voilà. Ou les lois de l'État d'Israël qui ne sont pas tout à fait les lois religieuses. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est une confusion. Je vais ajouter quelque chose concernant le lobby juif. Parce qu'on parle... Beaucoup de gens utilisent cette expression, lobby juif. Je trouve qu'on a tort d'utiliser cette expression. Il est vrai que dans les lobbies pro-israéliens, il y a des juifs, même beaucoup de juifs. Aux États-Unis en particulier, là où les lobbies pro-israéliens sont les plus forts, les plus efficaces. Je rappelle qu'aux États-Unis... c'est là qu'il y a le plus de juifs dans le monde, à part en Israël. Il y a à peu près le même nombre que de juifs israéliens, hein, alors qu'en Europe, ils sont devenus beaucoup plus minoritaires. Le pays en Europe où il y a le plus de juifs, c'est la France. Ils sont entre 500 000 et 700 000, on ne sait pas très bien. Ce qui est quand même, dans un pays de 60 millions d'habitants, c'est quand même une petite minorité. En Belgique, les juifs sont estimés à 30 000 environ. Sur 11 millions d'habitants, c'est très peu, etc. Aux États-Unis, ils sont quand même plusieurs millions, 6 à 7 millions, on pense. Mais dans un pays de 350 millions d'habitants, c'est quand même une petite minorité démographiquement. Et le lobby pro-israélien aux États-Unis n'est pas du tout composé que de juifs. Et tous les juifs ne font pas partie du lobby pro-israélien. Le bloc le plus influent, le plus important démographiquement et aussi financièrement, c'est le lobby chrétien sioniste aux États-Unis, qui est plus ancien que le lobby juif, enfin que la partie juive du lobby, on va dire. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est important. Moi, je dis toujours, arrêtons de parler de lobby juif, parlons de lobby pro-israélien, dans lequel on reconnaît qu'il y a des juifs, même pas mal de juifs, mais... C'est pas eux qui dominent. C'est pas eux qui dominent, en tout cas aux États-Unis, où ce lobby est le plus puissant. Et beaucoup de juifs, et de plus en plus de juifs, vu la politique menée par l'État d'Israël, sont hors de ce lobby et contre ce lobby. Donc, distinguons bien juifs de sionistes.
Merci beaucoup, Michel.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bélux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30. Et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.